Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Claire Voisin, vous êtes mathématicienne, vous étiez directrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique à l'École Polytechnique, membre de l'Académie des Sciences et titulaire de la nouvelle chaire de mathématiques, géométrie algébrique au Collège de France depuis le 2 juin 2016, date de votre leçon inaugurale. Vous êtes la première femme mathématicienne à entrer au Collège de France. Et nous allons, si vous en êtes d'accord, nous intéresser dans un premier temps à votre parcours. Je ne dis pas cela d'ailleurs pour fuir la difficulté de vos travaux, lesquels d'ailleurs m'échappent tout à fait, mais je sais qu'il y a parmi vos auditeurs des mathématiciens, et bien entendu, il n'y a aucune espèce de raison de les frustrer. Et donc, je vous demanderai de nous parler de votre travail et de vos cours. Mais auparavant, comment êtes-vous devenue la mathématicienne que vous êtes? Alors je suppose que vous avez su très jeune que ce langage-là était le vôtre.
Oui, je ne veux pas crier à la vocation précoce parce que, en vérité, je pense que c'est seulement à partir des classes préparatoires et peut-être même encore plus tard que j'ai conçu un véritable respect pour les mathématiques. Je pense que bien sûr, j'étais douée en mathématiques. C'était pour moi un exercice de prédilection au collège, au lycée. Mais je trouvais qu'il y avait un côté ludique. C'est souvent comme ça qu'on présente les mathématiques, peut-être un peu à tort à mon sens, parce que peut-être que du coup on les rend peut-être moins, on veut les rendre attractives en insistant sur leur caractère ludique, mais moi j'ai été saisie de respect pour la profondeur des mathématiques que plus tardivement. Ce que j'appelle plus tardivement, c'est plutôt au niveau de la classe préparatoire où on a vous fait véritablement entrer dans la dimension conceptuelle des mathématiques. Auparavant, on est plus dans le registre d'une sorte de pratique où les mathématiques sont présentées comme un peu comme une sorte de jeu de Lego. Donc on combine les arguments et c'est bien, ça exerce l'agilité de l'esprit, mais il me semble que si on veut vraiment devenir mathématicien, il faut à un moment donné qu'on soit saisi de l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment profond derrière. Et moi, par exemple, si je me remémore ma scolarité secondaire, en première, terminale, ce que j'aimais, c'était la poésie, la philosophie, des disciplines littéraires. Quand je dis ce que j'aimais, en fait, j'étais très bonne en maths. Mais ce qui vraiment me donnait une impression d'impulsion intellectuelle, c'était plus des disciplines littéraires, parce que je trouvais qu'on était dans la perspective, dans la profondeur. Et cette perspective, cette profondeur, je ne les ai découvertes que plus tard en mathématiques. En classe préparatoire, déjà, parce qu'on vous présente des théories, en particulier vraiment le coup de foudre pour ce qu'on appelle la topologie générale, ou les grandes structures en algèbre, par exemple, théorie des groupes, action de groupe, des choses vraiment fondamentales. Et quand on est confronté à ces notions fondamentales, on se dit, là, il y a vraiment quelque chose et on peut commencer à s'investir intellectuellement. Donc je ne dirais pas que j'ai pas décidé de faire des maths à l'âge de 7 ans, parce qu'en fait j'aimais ça sans avoir rencontré vraiment ce qui est pour moi la vraie nature des mathématiques, et plutôt dans le registre de la profondeur. Donc pour moi c'est plutôt classe préparatoire, moi, très 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 bien, première année de classe préparatoire, j'en garde vraiment un souvenir très épanouissant. Et plus tard, après maîtrise, vraiment j'ai eu des cours de maîtrise absolument excellents, ce qu'on appelait le DEA aussi à l'époque. Là, ce sont des parties du cursus qui sont déjà professionnalisées, qui commencent un petit peu à s'orienter vers la recherche, et où là, on est confronté à la description d'un domaine de maths avec ses objets spécifiques et sa conceptualité, sa démarche spécifique. Donc, je dirais que c'est assez tardif, finalement.
À partir de quand est-ce que vous avez vraiment basculé dans les mathématiques? À partir de quand est-ce que vous êtes dit que c'était plus que précisément un jeu de l'esprit, mais un lieu de pensée et d'invention?
Eh bien, je me souviens quand j'étais à l'école normale, je caressais encore le projet de plutôt me tourner vers l'épistémologie. J'étais encore dans cette idée que les maths, c'est quand même plus un jeu de l'esprit, que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on pense et quels sont les cheminements. Mais alors donc les gens de l'ENS, qui des gens un peu sensés, voyaient très bien le danger pour moi d'aller me lancer dans des disciplines où il est beaucoup plus difficile de percer, de faire quelque chose d'intéressant. Et donc ils m'ont maintenu en mathématiques. Et c'est, je dirais, ensuite lorsque j'ai fait mon DE1 qui commençait déjà à être un petit peu spécialisé en géométrie algébrique. Vous savez, le DEA, ce qu'on appelle le M2 maintenant, il y a une partie de cours qui commence à être un petit peu plus spécialisée, mais ensuite on écrit une sorte de mémoire qui ne correspond pas forcément à un travail de recherche, mais au moins un travail assez sérieux d'assemblage de personnalisé de connaissances. Donc ça demande vraiment de la lecture d'articles de recherche, par exemple. Et là, j'ai fait ce mémoire sous la direction d'Arnaud Beauville, qui est ensuite devenu mon directeur de thèse.
Qui est un grand mathématicien français.
Tout à fait, oui. Qui a une excellente école et qui donc qui a joué un rôle considérable dans mon domaine. Et donc sous sa direction, j'ai déjà découvert en fait ce qui est devenu mon domaine de recherche ensuite. Et là, c'est vraiment la rencontre avec. Ce sont les mathématiques qui se font, les mathématiques de la recherche, où il y a une chose qu'on ne dit jamais, mais qui est complètement évidente, c'est que les mathématiques qu'on enseigne, dans les cursus secondaires ou préparatoires ou universitaires du début, ce sont des mathématiques qui sont déjà faites. Ce sont des mathématiques qui sont déjà écrites.
Il n'y a rien à inventer là-dedans.
C'est-à-dire que c'est vrai que si on y réfléchit, si on veut sortir un peu du système, on se dit, est-ce que c'est pas un peu absurde de demander à ces jeunes de montrer des théorèmes qui sont déjà démontrés? Bien sûr, on affine leur esprit, on les aide à trouver il faut qu'ils trouvent leur chemin, mais on est dans le registre de la simulation, en fait. Quelle différence entre faire des mots croisés et résoudre un problème de maths qui vous est posé par quelqu'un qui connaît déjà la réponse? Je trouve qu'il y a un peu un problème, c'est probablement inhérent aux mathématiques, mais c'est vrai que pour moi, le coup de foudre, ça a été le moment où j'ai été confrontée à des articles de recherche, où je devais faire un gros travail personnel, et où j'ai découvert les mathématiques en train de se faire. C'est-à-dire, il n'y a pas cette espèce de décalage ridicule qui fait qu'une personne qui connaît déjà la réponse vous fait la pondre par vous-même.
Tout de même, est-ce que passer par des théorèmes que tout le monde connaît, en effet, ou des propositions, et les comprendre donne un effet aussi de découverte extraordinaire.
Oui,
et ça peut, au fond, éveiller au bonheur à la jouissance même de la connaissance.
Oui. Mais il y a quand même deux choses différentes. Il y a, je parlais de l'ego. Il y a le côté, c'est pas scolaire parce que c'est très plaisant pour l'esprit. Il y a tout ce qui fait appel à l'agilité de l'esprit qui consiste à assembler des théorèmes, des bouts de lemme pour fabriquer une démonstration. Et là, on insiste trop sur le côté, je dirais, un peu mécanique. Oui, c'est le côté assemblage. Il y a un autre aspect des mathématiques qui est vraiment fondamental, c'est le côté définitionnel, mise en place de notions, aussi unification, c'est-à-dire extraire de choses qu'on fait dans la pratique. Les mathématiques, on commence très très jeune. Donc en fait, on a une pratique des mathématiques qui est souvent assez avancée. C'est une pratique, on sait faire des opérations par exemple. On nous donne les règles de l'algèbre. Mais petit à petit, cette pratique se met en place sous la forme de...
D'un mécanisme.
Non, mieux qu'un mécanisme, parce qu'en fait, souvent, on est dans la mécanique avant. C'est la théorie qui se met en place. C'est-à-dire, on réalise que les opérations qu'on était en train de faire fonctionnent très généralement pour nous donner la structure générale d'un groupe ou d'un anneau ou d'un corps. Enfin, c'est dans le registre, dans le domaine de l'algèbre, par exemple. On réalise que certains objets qu'on rencontre, par exemple le groupe symétrique, les permutations, je pense que ce sont des objets qu'on rencontre très tôt dès qu'on fait un petit peu de combinatoire, par exemple, on s'aperçoit que il y a toute une théorie générale derrière qui parle de groupe et action de groupe. Donc petit à petit, les objets qu'on manipulait plus ou moins adroitement, sous une forme parfois particulière, entrent dans un cadre plus général, qui est important d'ailleurs pas seulement pour... il ne s'agit pas de généralité pour le goût, de la généralité en soi, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est plutôt de... Je dirais de compactifier, de rendre plus compact un ensemble de connaissances. Parce que nous, notre problème en tant que mathématiciens, c'est d'arriver à continuer à progresser et à communiquer, alors que par définition, la quantité de connaissances augmente. C'est curieux que les gens ne posent jamais la question de comment est-ce que c'est possible que le cerveau repousse les limites. C'est très simple, c'est parce que nous avons des processus qui sont d'ailleurs parfois un peu discrets, un peu brutaux, qui nous permettent de compacter plutôt, se compactifier ça existe, mais c'est plus mathématique, rendre compact des éléments épars de théorie et de connaissances qui finissent par tenir dans le creux de la main. Donc il y a ce...
Il faut réduire l'objet en quelque sorte.
Il faut éviter la dispersion et la multiplication des objets qui se ressemblent sans être tout à fait les mêmes. J'ai essayé dans ma leçon inaugurale. Ma leçon inaugurale était résolument mathématique parce que c'était le choix que j'avais fait de parler de mathématiques et non pas des mathématiques. Donc aujourd'hui, on parle des mathématiques et non pas de mathématiques. Je peux comprendre que
c'est pas la même chose. Ouais.
Eh ben non, c'est pas du tout la même chose. Si je parle de mathématiques, je ne vais vous parler que d'objets mathématiques. Donc, je ne serai pas en train de vous dire c'est vraiment beau, les choses fonctionnent comme ça, il y a les objets techniques, il y a les objets conceptuels, et il y a un échange entre les uns et les autres. Ça, c'est pour moi, c'est parler des mathématiques. Si je vous parle de mathématiques, je vais vous dire on va travailler sur le corps des nombres complexes, comme j'ai fait dans ma leçon inaugurale. Un nombre complexe, c'est ceci, cela, et on sera vraiment à l'intérieur des mathématiques. Donc il y a une grosse différence, et pour ma leçon inaugurale, j'avais fait ce choix, sachant que ce n'était pas évident, parce que j'en ai parlé avec ma famille, avec mes enfants, dont plusieurs ne sont pas mathématiciens, bien sûr. Je savais qu'ils seraient là, qu'ils amèneraient...
Votre époux lui-même est mathématicien,
Oui, alors, il y a une partie de la famille est mathématicienne, mais j'avais plusieurs de mes enfants qui voulaient inviter des amis, et je savais qu'il y aurait des gens non mathématiciens. Mais néanmoins, pour moi, cette leçon inaugurale, c'était un peu l'opération de lancement de mon cours. Mon cours, c'est un cours qui reste professionnel. Je suis recrutée au Collège de France comme mathématicienne. Et donc, je voulais affirmer que j'étais mathématicienne et non pas faire quelque chose qui aurait été à mi-chemin, semi-professionnel. Non. Donc, bon, c'est comme ça que j'ai conçu l'exercice. Et donc, à ce moment-là, ma leçon, je n'ai pas eu la tentation de passer un quart d'heure à dire les mathématiques, c'est beau parce que ceci, c'est beau parce que cela. Ce qui aurait été un peu une solution de facilité. J'aurais pu certainement, supposer que j'ai tellement de goût pour ce genre de choses, faire plus de, bon, je ne vais pas dire blabla, parce que déjà, il y a une connotation négative, mais. Oui,
rester dans la généralité.
Oui, passer un peu de temps à parler des mathématiques. Bon, on va dire en quoi il est beau de découvrir certains concepts qui permettent ensuite de structurer une théorie et même de formuler des conjectures, par exemple. On aurait pu parler de ce mécanisme extraordinaire, on peut dire cette espèce de trinité. Concept, théorème, conjecture, théorème, qui fonctionne continuellement en boucle et qui. Mais je n'ai pas voulu, parce que j'ai voulu que cette leçon soit conforme à l'esprit du cours, qui sera. Bon, je vais pas dire le. Bon, je vais employer le mot austère, qui est un mot très malvenu à notre époque, je pense. Mais ce cours sera austère au sens où ce sera vraiment un cours de maths.
Mais on peut dire la même chose, vous savez, des cours de philosophie, par exemple. Il y a des cours de philosophie austères. Je crois que dans toutes les disciplines, d'une certaine manière, on est obligé de traverser un rude désert avant d'arriver à quelques oasis, en quelque sorte.
J'entends bien, mais je pense qu'il y a beaucoup, dans beaucoup de disciplines, il est beaucoup plus facile de trouver un versant sympathique. Oui. On peut dire qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, ça sera pour les spécialistes, les gens qui le durent, les gens qui sont vraiment dans le sujet, dans la compétition intellectuelle, qui publient, etc. Bon, là, c'est le cénacle. Le petit groupe dur de gens qui sont spécialisés, tel que la science se fait actuellement, sciences humaines. Je dirais, à part les mathématiques, je pense que la plupart des disciplines qui sont présentées au Collège de France arrivent à trouver un versant sympathique qui leur permet de communiquer plus facilement avec le monde extérieur. Alors, d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que en discutant, bon, je ne sais pas si j'ai déjà dévoilé les secrets du Collège de France, mais en discutant avec les professeurs du Collège de France au moment de mon recrutement, pendant ce qu'ils appellent le marathon, comme on avait beaucoup de mal à discuter de mathématiques, on parlait souvent plus de questions d'enseignement. Et évidemment, moi, je trouvais extrêmement enviable le sort, le statut, la situation des littéraires, de tous ceux qui travaillent en sciences humaines, voire aussi ceux qui travaillent dans les domaines expérimentaux où on peut exhiber des résultats, parce que je trouvais qu'ils avaient une situation en or sur le plan de la communication. Et eux, ce qui est vrai, parce que dans la réalité, il suffit de compter les gens dans les amphis. Nous, mathématiciens, on a vraiment très peu d'atouts pour attirer les gens. Alors que, vraiment, dans la plupart des disciplines, je pense qu'ils ont quand même la possibilité d'accrocher un public extérieur. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'ils s'en plaignaient un petit peu, au sens où ça rend leur tâche très difficile. Parce que, du coup, ils doivent parler à deux publics en même temps. Et nous, mathématiciens, la réponse est très simple, nous n'avons pas deux publics. Il y a un seul public qui est un public de mathématiciens.
Par contre, vous devez avoir des échos et des conversations faciles avec nombre de vos collègues au Collège de France, parce que beaucoup de professeurs du Collège ont une vraie grande formation de mathématiciens. Par exemple, ou disons ah oui, mais cela dit, je pense par exemple à Madame Combes, qui est astrophysicienne. Il y a dans sa discipline cet aspect quand même séduisant dont vous parliez.
Tout à fait, absolument, oui.
Et qu'on ne trouve effectivement pas dans les mathématiques.
Oui.
Alors même que c'est une discipline très aride, mais en même temps, c'est une discipline séduisante.
Elle nous parle des étoiles.
Oui, des étoiles, c'est formidable.
Je veux dire, ce qui peut entrer en compétition.
En effet.
Mathématiques, dans un parallélépipède rectangle, se déplaçant le long d'une ligne intégrale, solution de l'équation différentielle du second ordre y seconde, plus TCRP, facteur de x, y prime plus s, égale 84, deux homoïdes, dont l'un seulement, l'homoïde grand A, présente une partie cylindrique de longueur grand L plus grand que grand N, et dont deux sinusoïdes, dont le rapport des périodes égale pi sur 2 entoure la calotte sphérique, ne peuvent présenter de point de contact de la base sans avoir également un point de rebroussement. L'oscillation de deux homoïdes, tangentiellement à la trajectoire ci-dessus, entraîne le déplacement infinitésimal de toute sphère de rayon infinitésimal tangente à une ligne de longueur petit l plus petit que grand L, perpendiculaire à la partie supérieure de la médiane du plastron de l'homoïde grand A. C'est QFD.
Les mathématiques ne peuvent continuer à se développer que grâce à des périodes tout à fait dramatiques où elles sont révolutionnées par l'arrivée de nouvelles théories qui ont tendance à rendre obsolètes. Parce que vous voyez, le problème, c'est que c'est très difficile, la mathématique. C'est très difficile techniquement, même si vous regardez une démonstration faite par un élève de classe préparatoire. C'est déjà difficile. Même c'est pour ça que les gens n'aiment pas les mathématiques. Quand vous apprenez la définition d'une fonction continue, on a quel que soit epsilon, il n'existait pas, et déjà on a perdu la moitié de l'auditoire. Et ça, c'est le tout début. Donc les mathématiques sont très difficiles à écrire, et la seule chose qui permet qu'elles continuent à se développer et à être utiles, parce qu'il ne faut pas oublier que les mathématiques sont en interaction avec toutes les autres sciences, c'est qu'elles se développent de façon interne et que dans certaines périodes elles aient ces sortes de révolutions qui permettent Alors souvent, il y a un saut d'abstraction qui se produit et il y a une théorie qui englobe les anciennes théories et qui les simplifie totalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes très ingrats vis-à-vis de la littérature mathématique ancienne. C'est parce que souvent, elle est écrite, on se dit, comment c'est pas possible? Pourquoi il faisait des choses aussi compliquées? Et comment il pouvait? Mais c'est parce que nous sommes repassés par là et nous avons mis en place un instrument, un outil plus puissant. Et moi, je pense que une des personnes qui a le mieux théorisé ces sortes de révolutions mathématiques, c'est Poincaré. Poincaré, les mathématiciens en général sont quand même pas très très férus de parler des sciences ou de philosophie des sciences. La plupart du temps, les gens se contentent de faire des maths, c'est déjà très bien. Mais Poincaré a beaucoup écrit sur les mathématiques, sur ce que c'est que la nouveauté en mathématiques, ce que c'est que l'élément du concept et ce que c'est que l'importance de la bonne définition. Et Poincaré était un peu un des premiers champions de ça. Les mathématiques du 19e ne sont pas tellement définitionnelles, on peut dire, supposé que ce mot existe. Mais Poincaré, c'est un exemple de quelqu'un qui a beaucoup contribué aux maths, pas seulement en faisant plein de théorèmes intéressants pour l'époque, mais en mettant en place des théories. Alors, on lui a beaucoup reproché de ne pas être suffisamment rigoureux, parce que les mathématiques du 20e siècle ont une beaucoup plus grande exigence de rigueur théorique, vous savez, avec Bourbaki, etc. Mais en fait, il est déjà, à mon avis, le modèle de ces mathématiques faites au 20e siècle, qui se caractérisent par une puissance conceptuelle extraordinaire. Donc, spécifiquement, par exemple, pour Poincaré, je pense à sa contribution en topologie algébrique. Bon, évidemment, pour les dynamiciens, Poincaré, c'est plutôt ses contributions en dynamique, la théorie du chaos. Enfin, mais pour moi, qui m'intéresse à la topologie des variétés algébriques, je trouve que l'apport de Poincaré dans ce domaine est extraordinaire, parce qu'il a, c'est totalement révolutionnaire ce qu'il a fait. Il s'est rendu compte que des choses qu'on calculait à la main, des évidences, des choses qui étaient éparses, devaient faire l'objet d'une approche qui vient de plus loin, C'est ces gens-là qui prennent du recul, qui créent une sorte de nouvel espace intellectuel qui englobe les connaissances précédentes sous une forme plus compacte, certes, puisque ça englobe, mais surtout qui permet d'aller plus loin. Parce que si vous vous contentez de dire bon, voilà, bon, là, pour progresser, j'ai juste besoin de montrer que ceci, cela. Bon, très bien, vous pouvez faire ça, mais à quoi ça va servir ensuite? Il faut pouvoir continuer. Et pour pouvoir continuer, il faut que tout ça, finalement, prenne sens dans une théorie utile pour d'autres applications. Donc, quand on parle d'utilité, c'est souvent à l'intérieur des maths, parce qu'à un moment donné, quelqu'un réalise qu'un certain type de calcul, ou même plusieurs calculs qu'on faisait avant séparément, en fait, se ressemblent. Et cette personne dit, mais c'est très simple, en fait, c'est le même calcul qu'on a fait de deux manières différentes, ou avec deux points de vue différents, et c'est normal que le résultat soit le même. C'est parce qu'en fait, ça correspond...
Claire Voisin, Leibniz inventait aussi un langage mathématique. Est-ce que c'est de ça que vous parlez, par exemple, quand il invente le signe égal? Il fait un pas de plus, quand même, aussi dans la simplification, par exemple, schématique. Enfin, c'est dans un autre domaine, mais néanmoins... Au fond, il fait le même type d'opération que Poincaré, par exemple.
C'est une assez bonne comparaison. Sauf que dans son cas, c'est une chose qui est passée totalement dans le langage. Donc, il est devenu élémentaire pour nous. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que vous dites, on peut dire qu'il met en place une opération intellectuelle. Cette opération intellectuelle, elle n'a pas été utile seulement, peut-être seulement pour les mathématiciens au début, qui se sont dit, dans le fond, oui, c'est vrai que ça permet de compacter les notations, etc. Mais finalement, c'est devenu quelque chose qui est dans nos esprits maintenant, qui est diffusé. Alors, quand je parle de Poincaré et d'autres personnes que j'aurais pu mentionner, Le Ray avec la théorie des faisceaux, la théorie des distributions, ça, c'est des grandes théories qui sont arrivées au XXe siècle. Donc, la différence, elles sont tout aussi fondamentales. La différence, c'est qu'elles ne sont pas encore passées dans les mentalités. Moi, il y a une chose que je regrette beaucoup. Vous parlez d'égalité. Bien sûr, c'est fondamental d'égalité, mais il y a quelque chose qui serait une sorte d'analogue moderne et dont j'ai toujours regretté que ça ne soit pas enseigné à des élèves plus jeunes. C'est ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Les relations d'équivalence, l'égalité, c'est une relation d'équivalence, mais c'est tellement bête que... c'est pas une relation d'équivalence intéressante. Mais la notion de relation d'équivalence et toutes les opérations et les raisonnements qu'on peut faire autour, c'est aussi quelque chose que je trouve fondamental et dont je trouve que ça devrait... Pourquoi on apprend aussi très très jeune les signes supérieur ou égal, inférieur, supérieur ou égal? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre, et on apprend même aussi finalement très très vite les propriétés caractéristiques de ces relations d'ordre, c'est-à-dire qu'en fait il y a des axiomes. Et relation d'équivalence, qui est une sorte de généralisation de cette égalité, c'est vraiment quelque chose de très important.
Comment s'écrit cette notion d'équivalence?
Alors, bien souvent, pour vous dire que on n'est pas loin de l'égalité, on note avec trois barres. Un signe d'égalité, c'est qu'il y a ces deux barres l'une au-dessus de l'autre. Et équivalent, souvent, on met trois barres. Mais il n'y a pas une relation d'équivalence. C'est-à-dire,
bien sûr,
on se donne une relation d'équivalence. Souvent, par exemple, vous pouvez penser en termes de parenté. C'est un peu vague, parenté, mais imaginez, par exemple, que dans une école, vous mettiez une relation d'équivalence qui est la parenté. C'est-à-dire, deux enfants qui seront de la même famille seront dans la même classe. Vous pourrez mettre ce petit signe
d'équivalence.
Bon. Et si, si un maître, un professeur est un oncle d'un enfant, vous mettrez aussi. Et à ce moment-là, bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'on a choisi la relation d'équivalence. Donc on dit, bon, ben, on a un ensemble, et dessus, on met une relation d'équivalence. Donc il y a des axiomes, donc réflexivité, transitivité, etc. Il n'y en a pas 36 000, d'ailleurs. Et donc ça donne quelque chose... qui généralise cette égalité.
Mais je sens que nos auditeurs vont utiliser ce signe, les trois barres.
Je les encourage beaucoup, mais il ne faut oublier qu'il faut d'abord, au préalable, spécifier la relation évidemment. D'équivalence qu'on a en tête.
Oui, bien entendu. Oui.
En général, ça nous ramène au fait que la théorie des ensembles est très importante en mathématiques et que même au 20e, c'est basique la théorie des ensembles. Dans les années 70, il y a eu les fameuses maths modernes où on a voulu enseigner les mathématiques par le biais de la théorie des ensembles. Ce qui est comique, c'est que ça a été un fiasco atroce alors qu'on peut estimer que c'est totalement basique. Mais ce qui est très intéressant, c'est le fait que ces théories modernes dont je vous parle, bon, par exemple la théorie des faisceaux, ce qui a plus influencé mon domaine, théorie des faisceaux, aussi théorie des catégories, functeurs dérivés, on est très proche de la théorie des ensembles, de la logique, et ça veut dire qu'on est, pour nous, la théorie des ensembles, c'est les origines. Voilà,
C'est
les origines, c'est d'où venons-nous. Et pourtant, ça revient régulièrement, parce que l'axiomatique ensembliste, on parle de la topologie générale, c'est une axiomatique ensembliste. La théorie des probabilités, la théorie de la mesure, c'est une axiomatique ensembliste. On a les tribus. Et pourtant, ces axiomatiques ensemblistes, qui peuvent être considérées comme totalement basiques, ont permis de révolutionner, d'introduire l'objet, la notion, le type d'objet adéquat qui ont permis d'accomplir des révolutions, même à notre époque. Ça paraît quand même curieux, puisqu'on est dans... C'est ça qui est assez intéressant, c'est que... Bon, j'ai essayé dans ma leçon inaugurale de mettre un transparent sur la théorie des faisceaux, parce que... pour des raisons historiques. Jean Le Ray, qui a créé la théorie des faisceaux, a été professeur au Collège de France, un très grand mathématicien. Ensuite, la cohomologie des faisceaux, c'est un outil qui était absolument essentiel pour le développement de la géométrie algébrique. Et dans le cadre de la géométrie algébrique, ça a été développé par Jean-Pierre Serre. Et donc, je pensais naïvement que... Comme l'axiomatique est ensembliste, vraiment, ça tient en trois lignes, je pouvais mettre tous les axiomes, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne passerait pas, que c'était déjà trop. Et donc, je peux vous écrire la formule, les deux, les trois axiomes qui définissent un faisceau. Et donc, il n'y a presque rien. Et pourtant, ça faisait déjà trop de connaissances. Ou alors, l'alternative, ça aurait été de consacrer ma leçon inaugurale au faisceau et à la cohomologie des faisceaux.
Est-ce que vous voulez dire, Claire Voisin, que finalement, c'est aussi une non-préparation des esprits? C'est-à-dire que si on repart de ce que vous nous dites, au fond, on pourrait habituer les enfants... Au lieu de partir d'Euclide, par exemple, et des anciennes visions du monde, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question aussi d'enseignement des mathématiques ?
Ça, c'est une question difficile, parce que moi, j'ai quand même élevé 5 enfants, donc j'ai essayé, je leur ai fait faire des mathématiques, des petites mathématiques quand ils étaient enfants. Et en fait, je pense qu'il y a une difficulté majeure dans l'accès à des axiomatiques ensemblistes. Et je crois que c'est pour ça qu'on est assez vite ramené à initier les enfants plutôt par la pratique. Ce qui est très curieux pour moi, ce n'est pas du tout l'essence des mathématiques. J'estime que l'abstraction, c'est quand même une bonne partie de l'essence des mathématiques. Et a priori, on pourrait se dire l'esprit humain est quand même fait pour la chose abstraite. Donc c'est quand même bizarre de ne pas partir de la chose abstraite. Surtout que l'abstraction, ça permet de faire tenir tout un tas de calculs qui prennent beaucoup de place dans très peu de choses, dans un tout petit espace verbal. Comme je vous dis, dire ce que c'est qu'une relation d'équivalence ou dire ce que c'est qu'un faisceau, en un certain sens, ça prend trois lignes. Mais il semble qu'il y ait un obstacle majeur. J'avoue que je n'ai jamais eu beaucoup de succès avec les relations d'équivalence expliquées à mes enfants. Alors que, par contre, si vous leur expliquez, des enfants d'une dizaine d'années, vous pouvez expliquer, ou même même plus jeune en fait, très facilement comment résoudre des systèmes de deux équations affines à deux inconnues. Vous savez, c'est j'achète deux croissants et trois pains, ça me coûte tant. Et ensuite, vous changez les coefficients et finalement, il faut trouver la réponse, bien entendu. Enfin, la question posée à la fin, c'est trouver le prix des pains et le prix des croissants. Et ces choses-là qui relèvent vraiment de, on peut dire, du côté laborieux des mathématiques, parce qu'en fait, c'est comme les opérations. En fait, il y a un mode opératoire. La première fois, l'enfant triche en faisant des essais un petit peu au hasard et trouve la réponse parce que vous avez mis des paramètres trop faciles. Bon. Et puis, après avoir fait 4 ou 5 fois, résolu 4 ou 5 fois ce type de problème, il finit par comprendre quelles sont les opérations à faire. En fait, il faut éliminer successivement une des deux variables de manière à l'isoler et à trouver sa valeur.
Non. Oui, mais c'est plutôt de la logique, ça.
Mais non, c'est de la pratique. C'est ça qui est très... Moi, ça a toujours été une source d'étonnement pour moi. Je vous parlais de ces grandes révolutions, mais ces grandes révolutions, il y en a peu par siècle. Les mathématiques se nourrissent énormément de pratiques. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même plus épanouissant pour les enfants d'apprendre à résoudre des petits problèmes comme ça. C'est décevant dans la mesure où, pour moi, ça c'est pas du tout l'essence des mathématiques. Et que l'essence des mathématiques, c'est de toujours, au contraire, se dépasser vers quelque chose de plus abstrait. Et que moi, finalement, plus j'ai été vers des choses générales, plus j'ai eu un sentiment d'être dans quelque chose de substantiel. Mais dans la réalité, si vous regardez les contenus des programmes, on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Et c'est par la pratique, apparemment, qu'on serait digne à ce que l'esprit s'affine par la pratique. Et l'abstraction qui est quand même... Là, c'est l'abstraction qui donne la puissance.
Bien sûr.
Donc c'est l'abstraction aussi qui donne, à mon avis, le... Pas l'abstraction pour l'abstraction parce que, comme je vous disais, c'est ça qui permet qu'une théorie subsume tout un tas de calculs et par l'abstraction parce que c'est important en soi. Mais au niveau de l'enseignement, de la formation, de la diffusion, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui finalement doit primer. J'ai l'impression que accéder aux choses par la pratique, est-ce que c'est le point de vue des pédagogues? Moi, je ne suis pas une enseignante, hein, donc j'ai donné des cours, mais déjà relativement spécialisés, donc à des gens qui ont déjà très solides connaissances. Hein. Et avec mes enfants, j'ai fait un peu de maths, mais... J'ai jamais eu un énorme succès avec les notions abstraites. Que moi, j'aime bien tout ce qui est structure, plutôt que calcul ou pratique. Mais dans la réalité, je pense que ça ne marchait pas si bien que ça. Non, en fait, il faut se résigner à l'idée que, eh bien, on accède aux maths par la petite porte. Voilà, c'est vrai que c'est une triste conclusion.
Alfred,
tiens,
Alfred, job de multiplication par deux, bon cher inspecteur.
Monsieur, 1 fois 1, 2 fois 2, 4 fois 3, 6 fois 4, 8 fois 5, 10 fois 6, 12 fois 7, 14 fois 8, 13 fois 9, 18 fois 7.
Un virtuose. Le Paganini de l'arithmétique.
Philibert.
Tiens,
Philibert, table de multiplication par 3. Allez, tant pis, c'est l'orgie, c'est la fiesta pour monsieur l'inspecteur.
Oui, monsieur, c'est comme si vous l'aviez 3 fois 1, 4. C'est tout récent, ça vient de sortir. 3 fois 2. Passez-moi le boulier. 7. Ah oui, je sais, tout augmente. 3 fois 3, nous passons rapidement. 3 fois 4, à quoi bon insister? Et nous arrivons déjà à 3 fois 5. Enfin, un bon bout de déblayé, ça. 3 fois 5. Eh oui, alors, voyez-vous, autant j'ai été brillant jusqu'à présent, autant à partir de 3 fois 5, il y a comme un malaise.
Claire Voisin, vous venez d'être élue donc, au Collège de France. Est-ce que je peux vous demander quels sont vos apports personnels, justement, aux théories mathématiques? J'ignorais qu'on puisse faire, avant de voir ce que vous faites, qu'on puisse faire de la géométrie algébrique. Je ne savais même pas ce que c'était. Je crois que c'est un domaine extrêmement pointu, extrêmement, en tout cas, rare.
Disons que... Je ne suis pas complètement sûre que ça soit vrai. Parce que en géométrie algébrique, bon, pour donner une définition vraiment en un seul mot, le maître mot, c'est polynôme. Donc ça veut dire que... Bon, en topologie, le maître mot, c'est fonction continue. En géométrie différentielle, le maître mot, c'est calcul infinitésimal ou fonction du... dérivée et intégrale. Bon. Mais alors quand je dis objet, quand on fait de la géométrie, grosso modo, encore que déjà, je sens que... Enfin, pour présenter les choses simplement, on a un espace et on a des fonctions dessus. Alors ça, c'est la conception traditionnelle de la géométrie où on a un espace et où l'espace est un ensemble de points. Alors en fait, progressivement au XXe siècle, la notion de fonction a primé sur la notion d'espace. Et donc, en géométrie algébrique, et surtout après la révolution grothendieckienne, on n'a plus défini un espace par l'ensemble de ses points. On a défini un espace par l'ensemble de ses fonctions.
Mais oui.
Ça, c'est un point de vue qui apparaît déjà dans d'autres domaines que la géométrie algébrique. Bon, par exemple, c'est connu que... on peut récupérer, mettons dans le cadre de, alors là on va faire, mettons géométrie différentielle, on peut récupérer une variété, c'est un espace topologique qui a un peu une meilleure structure locale qu'un espace topologique standard. On peut la récupérer comme, mettons, l'ensemble des idéaux maximaux de l'algèbre des fonctions. Donc à ce moment-là, dans cette formulation, on ne garde que l'espace des fonctions avec la structure de produit, qui est très important, le produit de deux fonctions, et on peut récupérer en quelque sorte les points comme étant ce qu'on appelle des idéaux de l'algèbre de fonctions. À savoir, c'est très simple, à un point, on associe l'ensemble des fonctions qui s'annulent en ce point.
C'est beau comme définition du point, je trouve.
Eh bien, oui, alors... Enfin,
c'est un point d'absorption, vous voulez dire, alors.
Eh bien, je n'ai pas tout à fait donné... quelle est la différence entre un point et une courbe, par exemple? C'est que, pour un point, l'ensemble des fonctions qui s'annulent en ce point, c'est ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel de codimension 1, parce que s'annuler en un point, ça impose une seule condition aux fonctions. Donc, si j'ai des fonctions, par exemple, ax plus b, des fonctions infines, la condition que, si je me donne un point x au 0, la condition que ma fonction s'annule en x au 0, c'est la condition ax au 0 plus b égale 0. C'est une seule équation sur la fonction. Maintenant, si je me donne deux points, je vais avoir deux équations sur la fonction. Je vais avoir x0, y0. Alors évidemment, maintenant, pour les fonctions affines, ça ne va plus marcher, mais je peux prendre des polynômes. Je vais avoir deux conditions, f de x0 égale 0, f de y0 égale 0. C'est deux conditions indépendantes. Donc, oui, on peut dire, bon, alors les points d'un espace, ça va être les hyperplans, c'est-à-dire les sous-espaces vectoriels de codimension 1 dans l'espace de fonction, mais qui satisfont une certaine condition algébrique très importante, qui est d'être, en termes techniques, un idéal. C'est-à-dire, c'est très simple, un idéal, ça veut dire que c'est stable par la multiplication. C'est-à-dire, si vous prenez, je reviens à des choses de plus en plus concrètes, vous prenez une fonction qui s'annule en un point, vous la multipliez par une autre fonction, vous allez encore obtenir quelque chose qui s'annule en ce point. Donc c'est ça. Alors, au début, je vous ai dit, vous achetez la figure, ces idéaux dans l'algèbre de fonctions, mais ces idéaux, ce n'est rien d'autre que ça, c'est cette condition d'avoir, mettons, un sous-espace vectoriel qui est stable par la multiplication. Donc, alors, il se trouve que ce point de vue n'est pas particulièrement utile en géométrie différentielle. Il l'est déjà beaucoup plus, finalement. Par exemple, je pense que les gens qui font la géométrie non commutative sont déjà plus dans cette idée-là. Et en géométrie algébrique, l'approche qui a prévalu, bien sûr, lors des développements de la théorie des schémas sous l'impulsion de Grothendieck. Alors, donc, déjà, quand on parle de géométrie, vous voyez, il y a géométrie algébrique, il y a cette ambiguïté qu'on pense un peu moins en termes d'un espace sur lequel on a des fonctions. Mais il se trouve que moi, je travaille en géométrie algébrique complexe, qui est un domaine finalement assez ancien, qui a commencé à se développer déjà au 19e, au moins dans le cadre de l'étude des surfaces de Riemann. Et donc là, la particularité, c'est que, bon, je vous ai dit polynôme. On étudie des polynômes. Donc c'est des espaces sur lesquels les fonctions définies sont des polynômes, polynômes à plusieurs variables. C'est très algébrique, un polynôme. Un polynôme, c'est une expression formelle où il y a des x, des y qui sont nos variables. Et pour évaluer ce polynôme en un point, eh bien, on va faire prendre des valeurs spécifiques aux x et aux y, qui sont les variables formelles. Donc, alors, les polynômes, à partir du moment où ce sont des expressions formelles, on peut étudier les polynômes par ce qu'on appelait l'algèbre commutative. Donc, ça c'était une partie de la géométrie algébrique, c'est développé dans cette direction. Mais si on veut faire de la géométrie vraiment au sens géométrique, eh bien, on va s'intéresser à une variété définie par des équations polynomiales et à leurs propriétés. Alors, quelles propriétés? Eh bien, c'est là que il y a toutes sortes de sous-domaines de la géométrie algébrique qui se créent. Moi, je suis passionnée à la fois par la topologie des variétés algébriques complexes, c'est-à-dire, alors là, on arrive d'un domaine tout à fait extérieur à la géométrie algébrique, qui est la topologie, on va dire topologie différentielle. On s'intéresse à calculer, à faire un petit peu ce qu'on appelle la théorie des obstructions, comprendre tous les obstacles à ce qu'une certaine variété définie par certaines équations soit un espace contractile comme l'espace ambiant ou une boule. C'est totalement inintéressant du point de vue de la topologie parce que ça se contracte continuellement sur un point. Donc une boule, ce n'est pas homéomorphe à un point, pour une raison très simple, il y a beaucoup de points dans une boule, alors qu'un mais par contre, du point de vue de la topologie, c'est pas du tout intéressant. Vous avez votre boule, mettons une boule de rayon R, vous pouvez la contracter en une boule de rayon R' plus petit que R par une opération de, disons, ce qu'on appelle les homothéties, donc d'un facteur qui va tendre vers zéro, et à ce moment-là, lorsque le facteur est devenu zéro, et bien votre boule a été contractée sur le point. Donc ces espaces-là, contractiles, ils ne recèlent aucun invariant topologique intéressant. Et dès que vous passez à des espaces un peu plus compliqués, comme la sphère, par exemple, eh bien, vous rencontrez des invariants topologiques, disons, intéressants. Alors, on peut aussi utiliser les sphères, qui sont les espaces topologiques de base, pour faire la théorie de l'homotopie, par exemple, calculer ce qu'on appelle les groupes définir et calculer les groupes d'homotopie. Et donc, le calcul de ces invariants pour les variétés algébriques, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de structures, de restrictions. Les variétés que je rencontre, mettons en géométrie algébrique complexe, on travaille sur le corps des nombres complexes. Je voulais vous dire un mot au sujet de pourquoi les nombres complexes d'ailleurs. Enfin bref, ce calcul des invariants topologiques des variétés algébriques complexes est régi par énormément de structures. C'est ça qui est vraiment le fond de mon domaine de recherche. Le maître mot, c'est structure de Hodge, structure de Hodge mixte. Donc, ce sont des notions qui ont été introduites par Griffiths et Deligne dans les années 60, enfin, fin des années 60. Et il y a énormément de choses à faire avec ça. C'est vraiment extraordinaire parce que ce sont des structures de Hodge, ce sont des objets de nature très algébrique, mais qui contiennent une quantité d'informations extraordinaires sur les variétés algébriques complexes. Il y a une partie de l'information qui est discrète, qui vient de la topologie. Donc, là, je vous dis, alors, encore une fois, là, c'est assez subtil, parce qu'il y a une partie de l'information qui est, ça dépend des coefficients avec lesquels on travaille, qui est extérieure à la géométrie algébrique, et une partie de l'information qui est, au contraire, entièrement calculable à l'intérieur de la géométrie algébrique. Ce qui est passionnant, parce que quand on fait la topologie d'une variété algébrique, ça veut dire qu'on prend une variété algébrique, au départ, on est censé... Une variété algébrique, c'est un espace où les fonctions qu'on est censé regarder, c'est juste les polynômes. Et quand vous voulez faire la topologie de cet ensemble-là, vous êtes obligé de regarder beaucoup plus de fonctions. C'est-à-dire, en fait, quand je dis topologie, c'est les fonctions continues qu'il faut regarder. Donc on prend la même variété algébrique, mais dessus, on regarde, a priori, toutes les fonctions continues ou différenciables. En fait, la théorie des formes différentielles. Donc, il y a une espèce de... Il y a plusieurs domaines en compétition pour nous parler de la topologie des variétés algébriques complexes. Et ce qui est passionnant, on est aussi, disons, dans un registre très, très conjectural, parce qu'il faut... Enfin, je veux dire, il y a surtout beaucoup de questions. C'est comment exploiter la richesse de l'information contenue dans une structure de Hodge. Je vous dis, une partie de l'information est topologique, ça c'est discret, c'est important, mais c'est pas très riche comme information. La grande richesse vient de la partie de l'information qui vient de la géométrie algébrique, où on a, ça fait partie de la notion de structure de Hodge, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a une partie de l'information qui vient de la géométrie algébrique, et donc qui dépend très étroitement de la classe d'isomorphisme de la variété. Alors qu'en topologie, les données sont discrètes, au sens où déformer un espace topologique, ça n'a pas vraiment de sens. Quand vous déformez, vous prenez une sphère, vous pouvez la déformer en un ellipsoïde, par exemple. Ça ne va pas changer sa topologie, c'est des invariants topologiques sont discrets. Ils sont par définition, on met des propriétés, des axiomes, comme on dit, d'invariance par homotopie, qui font que déformer un espace, du point de vue de la topologie, c'est essentiellement, c'est ne rien faire. Mais en géométrie algébrique, on a la structure de l'espace topologique sous-jacent, mais on a aussi la structure comme variété algébrique. Et là, on a une notion de déformation, qui est, alors on peut se placer du point de vue que j'ai adopté dans ma leçon inaugurale, le point de vue de la déformation de la structure complexe, par exemple. Et ça, ça nous donne des paramètres. Donc quand on déforme, quand on bouge le paramètre, la topologie ne change pas. Mais il y a une partie de l'information supplémentaire qui, elle, change. Et la question, c'est comment tirer le maximum de parti de cette information qui, elle, est beaucoup plus fine et précise. Donc, alors, après, les questions qu'on regarde, est-ce que ça sera le théorème de problème de Torelli ou relation avec ce qu'on appelle les cycles algébriques ? Ça, c'est... C'est vrai qu'on a un peu un problème dramatique dans l'évolution de la manière dont la société nous considère, nous, les chercheurs en général, avec des administrations au cours des années, ont eu tendance à être de plus en plus intrusives, plus en plus exigeantes sur tout ce qui est compte rendu de ce que nous faisons, comment nous le faisons. Et c'est pas que c'est le danger, c'est que ces gens ne se rendent pas compte que nous-mêmes, nous avons déjà relativement peu de. Enfin, un mathématicien, c'est pas quelqu'un qui se met à sa table, on appuie sur une touche, enfin, il pointe, et voilà, les théorèmes vont sortir. Nous n'avons pas toujours un contrôle conscient de notre activité. Une bonne partie de notre activité se fait, disons, sous la forme d'une sorte de cheminement souterrain. Et,
partie aussi en pure perte, et cette perte est nécessaire par ailleurs.
Vous avez tout à fait raison, il y a aussi ça. C'est tout ce côté. Nous, je me souviens que les chercheurs l'avaient eu mauvaise quand Sarkozy avait dit. Ce qu'on veut, c'est des chercheurs qui trouvent, comme si on pouvait optimiser notre activité. C'est une pure aberration. Même quand on est, en particulier quand on est mathématicien, on a beau être dans le domaine de la chose exacte, nous faisons énormément d'erreurs, non seulement au niveau de nos calculs, mais aussi au niveau de nos choix. Nous avons des échecs, mais notre pratique à long terme est portée aussi bien par ces démarches infructueuses que par d'autres choses, bien sûr les communications. Alors là, ça va très bien, on peut mesurer. J'ai été de telle heure à telle heure, à tel endroit, j'avais expliqué des choses, ça c'est parfait, irréprochable. Ça fait partie de notre travail, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... tout le temps que je passe, moi, à balayer ma cuisine et en même temps à faire des maths. Et ça, je pourrais jamais... On peut pas expliquer ça aux gens, mais c'est regrettable. Et je pense qu'autrefois, lorsque le CNRS a été créé, cette liberté existait un peu par principe, parce que c'était dans l'esprit du temps. Et au cours des années, les gens sont devenus... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des excès, beaucoup trop de gens ne faisant rien, mais quand on dit quelqu'un ne fait rien, ce n'est pas toujours correct. Il y a toutes des parts de discussion. Il y a des gens qui passent énormément de temps dans les couloirs à discuter, et ces gens apportent tout autant. Enfin, ils apportent à la communauté mathématique de cette manière. Il y a d'autres qui préfèrent travailler dans leur tour d'ivoire. Il ne faut pas essayer d'influer sur ce genre de choses, parce que nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous. Donc nous avons besoin d'une liberté qui nous permet de nous adapter.
Claire Voisin, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien absolument passionnant.
Je vous remercie beaucoup.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Claire Voisin, titulaire de la chaire Géométrie algébrique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter un entretien avec Edith Heard, titulaire de la chaire d'épigénétique et mémoire cellulaire. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.